My gang will get you.
Les enfants du Nouveau Monde, une émission de Céline Elodie. Même si on nous en parle très peu, le monde est rempli de belles choses. Des humains en marche, des initiatives pleines de bon sens et d'humanité. Nous sommes tous une étincelle de cette transformation. Avec les enfants du Nouveau Monde, partons à la rencontre des terriens d'ici et des humains de là-bas, des enfants de la Terre qui aiment notre planète, qui croient en leurs rêves et qui créent un monde meilleur par leurs actions quotidiennes. Aimer l'humain, humer l'humus, humilité, avec humilité. Bienvenue sur Terre, enfants du Nouveau Monde.
Hey man, you want girls? I show you a good time. This place has everything. Come on, I show you.
Bonjour à tous et à toutes les auditrices et auditeurs des enfants du Nouveau Monde. On se retrouve en ce mois de juin, assez pluvieux, hein, faut bien le dire, avec un invité qui est Pierre-Alexandre Morales et qui est enseignant de la voix Toltec. Alors, on va parler de cet art de vivre ou comment faire de notre vie une œuvre d'art avec Pierre-Alexandre Morales. Bonjour.
Bonjour, Céline Elodie.
Je suis ravie de t'accueillir. Tu vas pouvoir donc nous parler, puisque toi, c'est vraiment ta vie, hein, tu te consacres à l'enseignement de la voix Toltec. Tu vas pouvoir nous parler un peu plus en détail de ce livre qui est un best-seller aujourd'hui dans le monde du développement personnel. La plupart des gens le connaissent, les 4 accords Toltec. Il n'est pas le seul, puisqu'il y a aussi un 5e accord Toltec et puis plein d'autres ouvrages pour approfondir cet enseignement. Toi, justement, l'enseignement, c'est la première base dans ta vie, transmettre, enseigner les façons de vivre mieux, ça a toujours été ton dada.
Mais en tout cas, l'enseignement a toujours été au centre un peu de mes projets et de ma motivation. C'est en quelque sorte un cœur de métier, puisque je sais que je veux enseigner depuis l'âge de 14 ans.
D'accord.
Notamment en ayant été inspiré par des modèles d'enseignants qui m'ont donné envie de faire comme eux.
Et qui étaient-ils?
Des enseignants au collège de français, oui. De littérature, qui m'ont sensibilisé aux textes, aux auteurs, à la poésie aussi, parfois des enseignants d'histoire aussi. D'ailleurs, je suis assez passionné d'histoire par ailleurs.
Et voilà. D'ailleurs, tu as commencé par être prof d'histoire, c'est ça?
Oui, c'est ça. Dans une autre vie de cette vie, j'ai été professeur de français et d'histoire, géographie un peu aussi.
C'était tes deux passions, tu avais envie de comprendre le monde et puis le mettre en mots.
On peut dire ça comme ça. La littérature, c'était surtout l'esthétique, la beauté, et puis une quête aussi, quelque part, d'absolu, à travers la littérature, la poésie. L'histoire, c'est plutôt un regard sur le monde, surtout l'histoire contemporaine, pour comprendre, en fait, pourquoi on en est là aujourd'hui. Je crois que pour savoir où on va, il faut savoir d'où on vient.
Alors, est-ce que tu peux nous parler de cette voix Toltec? Les Toltecs, c'est un peuple très ancien, hein, en Amérique latine. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu mieux?
Alors, plus qu'un peuple, effectivement, c'est une civilisation. Mm-hmm. Une civilisation de l'ancien Mexique disparue depuis longtemps, mais dont la philosophie a continué à se perpétuer au fil du temps, notamment par des petits groupes, des familles, par voie orale.
Est-ce que ce serait une des civilisations les plus anciennes du Mexique?
Non, pas du tout. C'est une civilisation ancienne, mais c'est pas une des plus anciennes. En fait, on ne sait pas grand-chose sur les Toltecs parce qu'on n'a pas beaucoup de traces écrites, un peu comme pour d'autres civilisations de cette Mésoamérique précolombienne, avant l'arrivée des conquérants européens.
C'était un peuple de sages, c'est ça?
C'était un peuple de sages, de bâtisseurs, d'artistes, de scientifiques. Et considéré à l'origine de la civilisation un peu comme les Grecs chez nous en Europe.
D'accord.
Et donc il y a toute une mythologie, toute une symbologie. Les Aztèques, par exemple, qui sont des envahisseurs du Nord, qui sont arrivés là où étaient les Toltecs, vont se revendiquer comme des successeurs, des descendants des Toltecs. Voilà. Alors c'est vrai que c'est une civilisation. Ils ont même eu une sorte d'empire à la fois politique et spirituel avec un roi qui aurait été un descendant de Quetzalcoatl, la figure tutélaire des Toltecs, le serpent à plumes, qui est une figure spirituelle, voilà, un dieu important chez les Toltecs. Mais ceci étant, ce qu'il est important de retenir aujourd'hui, et c'est là-dessus que Don Miguel Ruiz,
qui est l'auteur des 4 accords Toltecs,
insiste, c'est de retenir surtout que les Toltecs étaient des artistes dans le sens où le mot en ancien Nahuatl, la langue que parlaient les Toltecs, est encore parlé dans certains états du centre-sud du Mexique. Toltecayotl, c'est art de vivre.
D'accord.
C'est pour ça que Miguel Ruiz, pour faire simple, très simple, dit « retenez ceci, Toltec signifie artiste ». Mais artiste dans le sens où l'on fait de sa vie, tu l'as dit tout à l'heure, une œuvre d'art. Il y a deux façons d'être un artiste. On peut créer des œuvres pour embellir le monde, donner à voir, à méditer, à philosopher. Là, on est entouré, par exemple, dans ce lieu de très belles œuvres d'art et d'artisanat.
On peut en profiter pour remercier d'ailleurs la galerie Terra Viva qui nous accueille à Saint-Quentin-la-Poterie où nous enregistrons cette émission.
Merci. Mais il y a une autre façon d'être un artiste qui est, en fait, d'utiliser sa propre matière personnelle, se sculpter soi-même, en quelque sorte, sculpter son âme pour faire de sa vie une œuvre d'art.
Bien sûr.
Une œuvre d'art qui va être, peu à peu, un chef-d'œuvre d'équilibre, de beauté, de gratitude...
De vertu.
Et de conscience.
Et de conscience. Mmh. Toi, comment tu en es venu à découvrir cette voie Toltec, puisque, à la base... Tu es né ici en France. Comment es-tu entré en contact avec cette voie de sagesse méso-américaine, comme tu dis?
Oui. Pourquoi ce détour par l'ancien Mexique et cette toltéquité qui, depuis, ne m'a pas quitté, comme je dis parfois, pour rire. Ça a commencé il y a une douzaine d'années par l'intermédiaire d'une amie, en fait, qui, à un moment donné, m'a plusieurs fois interpellé en me disant « Tu fais des suppositions. Arrête de faire des suppositions. » Et je me disais, alors, mais qu'est-ce qu'elle a, celle-là, avec ses suppositions? Pourquoi elle me dit tout le temps ça? Et puis, en parlant avec elle, elle me dit que ça vient de ce petit livre, Les Quatre Accords Toltec. Je regarde ce livre, c'était dans les années 2007 environ. Je regarde ce livre qui me paraît intéressant, mais dans un premier temps, je dis, bon, très bien, ça a l'air intéressant, mais je verrai ça plus tard. Et puis, je le feuillette, je le mets de côté, puis je l'oublie. Deux ans après environ, je me tourne vers un ami à qui je dis... Tu aurais pas un tuyau, quelque chose qui pourrait m'aider en fait à transformer mes relations, à harmoniser les relations, à j'en ai marre des conflits relationnels, j'en ai marre de me disputer dans telle ou telle relation, j'aimerais
de
mettre
clé.
De la paix, voilà,
et
dans mes relations. Et il me parle des quatre accords que j'avais donc chez moi, que j'avais oublié, mis de côté. Et là, je me plonge dans le livre et je trouve tout de suite des clés effectivement de communication relationnelle. Des outils et des leviers pour vivre mieux dans ses relations, ouais. Pour vivre plus en paix, en faisant attention à la manière dont on parle, en réfléchissant pourquoi nous prenons les choses, nous réagissons personnellement aux situations, qu'est-ce que ça vient en fait mettre en jeu, qu'est-ce qui se passe quand on arrête effectivement de faire des suppositions et de faire tourner sans arrêt le mental et de croire au film en fait qui tourne dans notre tête, à la voix qui parle dans notre tête, comme disent les Toltecs. Et je vois très vite à ce moment-là qu'il y a vraiment des clés de transformation. Je commence à méditer le livre, prendre des notes, à l'offrir autour de moi, à des anniversaires, etc., à des proches, à de la famille, en parler beaucoup, au point de faire une conférence. Mmh. Et en fait, j'ai dit chiche, j'y suis allé, ça a démarré comme ça, et les premiers cercles de pardon, ensuite, ont démarré dans la région d'Avignon sur le support des accords Toltec, de manière très modeste, chez des gens qui avaient été intéressés suite à la conférence et qui m'ont ouvert la porte de leur maison.
D'accord, alors on va parler donc de ces fameux cercles de pardon, mais avant, ça vaudrait certainement le coup de rappeler quels sont ces accords Toltec, puisque ça a été le premier livre qui a fait connaître la voix Toltec ici en Occident, donc c'est les quatre accords Toltec. Est-ce que tu peux nous les rappeler?
Alors, le premier accord Toltec nous invite à avoir une parole impeccable. C'est un accord qui nous invite à méditer sur le sens de la parole, l'impact que nos paroles vont avoir sur les autres, et qui n'est pas loin de ce proverbe de sagesse populaire qui dit de tourner 7 fois sa langue dans sa bouche avant de parler.
Alors ça peut paraître impossible à atteindre d'avoir une parole impeccable.
Impossible.
Ou alors, en tout cas, peut-être, ça peut donner l'impression que ça va brimer une certaine spontanéité.
Pas forcément. En fait, ça consiste à faire attention aux conséquences, donc à réfléchir effectivement à nos paroles. Donc dans certains cas, il vaut mieux tourner 7 fois sa langue dans sa bouche ou 7 fois son cerveau dans sa tête, puisqu'une parole impeccable reflète une pensée impeccable, une intention impeccable, disent les Toltecs. Donc parfois, il vaut mieux que les choses ne soient pas forcément spontanées ou sortent tout de suite et de réfléchir à ce qu'on va dire. On doit le sentir cela, c'est au jugé de chacun. C'est-à-dire, si je lui dis cela, Par exemple, si je le traite de tous les noms d'oiseaux, si je l'insulte, qu'est-ce que cela va donner ? Si mes paroles étaient des graines, qu'est-ce que cela donnerait ? Si mes paroles étaient des notes de musique, qu'est-ce que cela donnerait ?
Mais comme nous sommes tous loin d'être des grands compositeurs de vertu et de sagesse, effectivement, la plupart du temps, on donnerait un champ de fleurs, on va dire, assez hétéroclite. Il y en aurait des belles, il y en aurait des moins belles, il y en aurait des petites, il y en aurait des grandes, des parfumées, des moins parfumées. Comment ne laisser sortir que les belles ou que les grosses, que les parfumées ? Ça paraît compliqué, non ?
Eh bien, en étant authentique et en étant intègre. C'est-à-dire qu'une parole impeccable consiste à dire ce que l'on pense, toute vérité n'étant pas forcément bonne à dire n'importe quand, n'importe comment, à n'importe qui. Vous voyez, ça c'est au jugé de chacun. Chacun doit sentir si c'est le bon moment, si la personne est prête à entendre.
Bien sûr.
La deuxième chose consiste à ne pas utiliser la parole ni contre soi ni contre autrui. Donc ne pas utiliser la parole comme une arme que l'on pourrait retourner contre soi. Et si on n'est pas forcément un grand compositeur, on peut travailler le chevalier ou le guerrier en nous et travailler la fine lame de notre épée. C'est-à-dire que c'est comme une arme à double tranchant. La parole peut créer un véritable rêve de paradis, comme dirait Miguel Ruiz. On peut poser le cadre, fixer les limites, on peut affirmer qui on est. On peut dire ce que l'on pense, mais on peut aussi tuer, guerroyer, détruire. Tout dépend comment on va utiliser cette arme à double tranchant qu'est la parole. Enfin, c'est utiliser la puissance de la parole au service de la vérité et de l'amour, dit Miguel Ruiz. En résumé, c'est ça une parole impeccable. Alors, bien entendu, il ne s'agit pas de passer 24 heures sur 24 à se surveiller, à se contrôler. Parce que je connais certaines personnes qui n'osent pas...
N'osent
plus parler sous prétexte de ne pas avoir une parole impeccable. Alors du coup, c'est leur silence qui n'est pas impeccable.
Bien sûr.
Qui est parfois est lourd de sens.
Donc là, c'est vraiment une invitation via la parole à aller conscientiser quelles sont nos intentions.
C'est ça.
Et peut-être chercher à guérir nos intentions qui ne sont pas tout à fait impeccables, qui chercheraient à nuire, qui chercheraient à juger, à être un peu malveillante, même vis-à-vis de nous-mêmes. Bien souvent, malheureusement, nous sommes nos premières victimes. Et essayer de remettre de l'amour à tous ces endroits-là, c'est ça ? Remettre de la lumière et de la conscience.
Oui, on peut le dire comme ça, mais en même temps, j'ai envie de dire aussi, c'est utiliser la philosophie du quatrième accord dont on parlera tout à suite, faire toujours de son mieux, c'est-à-dire faire de son mieux pour avoir une parole impeccable. Alors au début, ça va demander beaucoup d'énergie, beaucoup d'attention. Ça va être difficile, mais comme n'importe quelle nouvelle chose qu'on apprend, souvenez-vous de votre première leçon de conduite, ben les accords Toltec, c'est pareil. C'est difficile, souvent on me dit, je dis oui, je réponds au début. C'est vrai que Miguel Ruiz nous dit que c'est le plus important, donc tous les autres en découlent. Il est primordial parce qu'il
avoir
correspond...
une parole impeccable, c'est l'accord principal.
Oui, c'est d'accord. Le premier. C'est au commencement était le Verbe. Le Verbe d'accord. était avec Dieu, le Verbe était Dieu. C'est Miguel Ruiz lui-même qui cite le prologue de l'évangile de Jean. C'est l'esprit. Donc c'est intento, l'intention qui est importante chez les Toltecs, c'est l'esprit. Et une parole impeccable va refléter une pensée impeccable. Et je dirais que si on va jusqu'au bout, elle va être suivie d'une action impeccable. Donc vraiment, l'impeccabilité, c'est une notion chère aux Toltecs pour aligner, on parlerait plutôt, nous, dans notre culture d'alignement, aligner ce que je pense, le pouvoir de l'esprit, ce que je dis, une parole à partir du cœur, hein, une parole de miel, comme disaient les anciens, et ensuite une action impeccable. C'est vraiment cet alignement. Donc forcément, ça demande une certaine traque, comme disait Toltec, une certaine attention au début, pas mal d'énergie. Voilà. C'est s'observer.
S'observer, voilà.
C'est s'observer, comme on retrouve dans d'autres traditions aussi, par la méditation, par exemple, par la conscience, se voir. Si on veut, en langage toltèque, chamanique, on parlerait plutôt de la vision, c'est redevenir un voyant, comme disent aussi Miguel et José Ruiz à la fin du cinquième accord toltèque, redevenir un voyant, c'est-à-dire être conscient, tout simplement. Mais dans la terminologie toltèque, on utilise des mots un peu différents.
Tiempo. triste y fol de mis entrañas.
Óyelo mi madre, óyelo mi hermana.
Óyelo este hijo de mis entrañas.
Venons d'écouter Ojo de Culebra de La Marie et Lila Downs dans Les Enfants du Nouveau Monde, où nous découvrons la voix de sagesse Toltec grâce à Pierre-Alexandre Morales qui nous explique justement les quatre accords Toltec.
Alors le deuxième accord Toltec fait suite au premier et là ça met en jeu l'interaction, la relation. Si dans le premier on est dans un accord d'affirmation, un accord du un, que votre parole soit impeccable, l'épée, la verticalité. Dans le deuxième, c'est plus une danse à deux, et cet accord nous dit « quoi qu'il arrive, n'en faites pas une affaire personnelle ». Donc c'est un accord qui parle de l'impact, cette fois-ci, que les mots ont sur nous, qui est une invitation à ne rien prendre personnellement. C'est un accord qui est difficile à pratiquer parce que nous réagissons le plus souvent personnellement, parce que...
nous avons des blessures.
Bravo, parce que ça fait mal.
Bien sûr.
Donc quand ça vient toucher quelque chose qui fait mal, qui est en résonance avec une blessure qui n'est pas guérie, pas encore guérie, eh bien nous avons tendance à réagir personnellement.
Parfois sans que nous en ayons conscience. C'est-à-dire quelqu'un va dire quelque chose ou faire quelque chose qui va nous blesser, nous heurter, nous vexer, etc. Pourquoi ? Parce que ça rentre en résonance avec des anciennes blessures que nous avons refoulées, oubliées, voilà, mis de côté. Mais là, elles se réveillent à ce moment-là et ça nous vexe et ça nous blesse et on s'en en veut à cette personne.
On en fait une affaire personnelle. Et bien souvent, ça n'a rien à voir avec ce que l'autre, dans la situation présente, nous a dit, qui, par exemple, peut passer sa colère sur nous ou être dans un mauvais jour, nous insulter ou déverser son poison émotionnel sur nous. Pour autant, on n'est pas obligé de l'accepter. On a une parole impeccable pour dire que je ne suis pas ta poubelle émotionnelle, comme dirait l'autre. Ça suffit. Ou, vous n'allez pas lui dire comme ça si quelqu'un vous insulte au volant. Mais tout simplement, de signifier à l'autre qu'il le fait sans votre accord. Et ça permet de recadrer les choses, de signifier à l'autre que finalement, on lui laisse. Et donc souvent, ça n'a rien à voir. Ce sont les projections. Et tous les humains vivent dans leurs rêves, comme disait Toltec, leurs projections. Et nous réagissons personnellement aux situations, effectivement, parce que ça fait mal ou très mal, ou ça fait grand plaisir. Parce que j'attire aussi votre attention, c'est à double face.
C'est aussi ne pas prendre... parce que nous prenons personnellement tous les compliments que nous prenons aussi personnellement tous les désagréments, on va dire.
Alors, moins les compliments que les flatteries.
Ah oui.
Parce que pour moi, le compliment est quelque chose de simple et de positif. Bon, c'est un compliment, merci, on accuse réception. Une flatterie, il y a souvent une transaction cachée, c'est-à-dire il y a une attente derrière. Tiens, pourquoi est-ce qu'il me flatte ? Ou pourquoi est-ce qu'il me critique ? Dans un sens comme dans l'autre, qu'il m'encense ou qu'il me descende, dans les deux cas, on est dans des extrêmes, on n'est pas dans juste milieu, on n'est pas dans la réalité.
Et on n'est pas dans une intention pure.
On est dans une distorsion, en fait, de la réalité. Donc, c'est ne pas le prendre dans le sens des critiques négatives, du poison émotionnel, mais non plus dans le sens des flatteries.
Donc, ne pas prendre les choses personnellement. Et bien sûr, c'est détaillé dans le livre.
Oui, et donc,
sur plein d'exemples.
Les prendre pour ce qu'elles sont. Les prendre pour ce qu'elles sont.
C'est-à-dire rendre à l'autre aussi sa part.
Voilà. Il y a quelque chose qui peut aider, c'est par exemple lorsqu'on vous offre un cadeau empoisonné.
Ça m'arrive pas trop souvent, Dieu merci.
Ou un cadeau qui ne vous plaît pas.
Ah oui, ça par contre, ça m'est arrivé, oui. Voilà. Facile d'oser dire, bah, écoute, je vais te le laisser en fait.
Ah, mais c'est justement là que c'est intéressant de travailler le premier accord. C'est-à-dire comment est-ce que je peux lui dire avec une parole impeccable, qui ne le blesse pas, où je me respecte, où je dis ce que je pense et j'utilise la force de la parole au service de la vérité et de l'amour. Si par exemple c'était le cas, je dirais, ben, c'est gentil, merci, mais non, je préfère ne pas le prendre. Alors, si je suis bien poli et bien élevé, je vais pas forcément le dire, effectivement, je vais le mettre dans un coin, mais en fait, je ne le prends pas. La réalité, c'est que ce cadeau ne me plaît pas et que je n'en veux pas. Eh bien, lorsque quelqu'un vous envoie du poison émotionnel, que ce soit des flatteries ou des critiques, vous pouvez considérer ça comme un cadeau empoisonné que vous ne prenez pas. Bien entendu, dans le feu de l'action, lorsque quelqu'un nous insulte au volant ou qui a beaucoup peut-être d'émotions en
bien
jeu,
sûr, la réaction chaud, est souvent
c'est pas
difficile
si
à éviter.
Évident. Mais le fait d'avoir l'accord à l'esprit, vous pouvez vous appuyer comme
bien
une
sûr
ressource mentale qui va vous permettre de relativiser la situation.
Tout ça sont des garde-fous ou
des ressources,
ou on va dire même des panneaux indicateurs pour nous mener vers des vertus de cœur, de compassion, de comprendre que ce gars au volant qui m'insulte, bon, le pauvre, il en est là, bon, ben voilà, laissons passer. Mais c'est pas la peine, moi, d'aller nourrir des sentiments toxiques à son égard et qui vont me polluer moi-même à cause de ça, quoi. Laissons passer. Je ne prends pas personnellement.
Quand tu parles de panneau indicateur, j'aime bien cette expression parce que de mon côté, j'emploie le mot balise. C'est vrai que ces accords sont comme des balises pour se repérer dans le monde tel qu'il est, tel qu'il est, j'insiste, en se changeant d'abord soi. Et un monde qui est complexe, qui est changeant, qui est parfois anxiogène, parfois stressant. Et donc, pouvoir naviguer, se repérer et vivre heureux malgré tout.
Et le troisième accord Toltec alors ?
Alors, le troisième, il nous entretient sur notre façon de penser, sur notre système de pensée, et nous dit ne faites pas de suppositions.
Le fameux qui t'a fait rencontrer la voix Toltec.
Voilà, celui par lequel je suis entré en Toltequité.
Alors pourquoi ne pas faire de suppositions ? C'est la base des recherches scientifiques même, de faire des hypothèses, non ?
Alors justement, lorsque les scientifiques font des hypothèses, merci pour cette remarque, c'est qu'ils considèrent cela comme des hypothèses. C'est-à-dire non pas comme des vérités. Donc, ils utilisent les différentes possibilités comme des déductions pour aboutir à la réalité.
Et ils gardent bien à l'esprit que ce sont des hypothèses, ils ne les prennent pas pour certitudes.
Exactement. Chaque fois que Edison échouait pour atteindre dans ses recherches pour créer l'ampoule électrique, il se réjouissait parce qu'il savait qu'il se rapprochait du but. Et il a échoué des milliers de fois avant de pouvoir aboutir à l'ampoule électrique. Mais il fonctionnait par hypothèse. Le problème de la plupart des humains, comme dit Miguel Ruiz, c'est qu'ils font des suppositions pour tout et ils y croient.
Ok, donc en fait, ça serait ne prenez pas vos suppositions pour des certitudes.
En gros, c'est ça. Et donc, exactement, et vérifiez. Est-ce que c'est vrai ?
C'est ça.
Est-ce que j'ai vérifié ?
Prendre conscience que la plupart de ce que je crois vrai n'est en fait qu'une supposition.
Oui.
Je n'ai pas vérifié.
Ouais, ouais. Tu as vu comment elle m'a regardé, ou tu as vu celui-là comment il m'a regardé, en fait. Voilà, et après on peut partir dans les suppositions. Ce n'est pas le fait de faire des suppositions qui pose problème. C'est d'y croire en les prenant
pour
argent comptant,
pour
vrai, sans avoir nécessairement vérifié, sans avoir poser de questions sans avoir vérifié l'exactitude.
Alors si tout à l'heure on se méfiait justement de ce que l'autre projetait sur nous en ne prenant pas personnellement les projections des autres, là ça serait plutôt se méfier de nos propres projections. C'est-à-dire quand on fait des suppositions et qu'on y croit, on est totalement dans nos projections intérieures, dans notre petit cinéma intérieur qu'on l'on prend pour vrai.
Exactement, c'est ça. Avec deux types de suppositions, soit on sous-estime la réalité, oh mais là il n'y a pas de problème, c'est pas la peine de préparer, etc. Et puis on se rend compte que ben non, c'est pas le cas, il aurait mieux valu préparer les choses. Et donc, ben on se plante, on n'est pas dans la réalité. Ou alors, là, surestimer, j'y arriverai jamais, c'est trop difficile. Et puis, on passe à l'action et on se rend compte que, mais pourquoi est-ce que j'ai attendu aussi longtemps ? C'est pas si difficile. Parce qu'on était dans un film, on était dans une illusion, voilà, et non pas dans la réalité. Dans les deux cas, on est à côté de la plaque. Après, il y a les suppositions que l'on fait avec les autres. Le premier cas de figure, c'est avec soi, et puis avec les autres. Donc, le plus simple dans ce cas, c'est de poser des questions, c'est de se mettre en quête de la vérité, s'enquérir du vrai, de vérifier, puis...
Prendre la posture du Candide de Voltaire, aller demander. Écoute,
oui,
quand tu as réagi comme ça, ça m'a donné l'impression que peut-être tu es un peu stressé ou angoissé, ou il y a quelque chose qui t'embête dans ma façon d'être. Qu'est-ce que c'est que je veux vérifier auprès de toi ? Est-ce que j'ai bien senti ou pas ? Ce
Très
genre
bien,
de choses.
Je vois que tu pratiques bien déjà la voix Toltec.
sans peut-être même le savoir.
C'est tout à fait ça, et ça change beaucoup de choses. Ça évite beaucoup de drames et de malentendus.
Bien sûr.
C'est pour ça que quand j'ai commencé avec ce petit accord qui a changé beaucoup de choses... ça m'a énormément aidé pour en fait
pacifier les relations.
Oui, mais calmer le mental aussi. C'est-à-dire arrêter ce petit moteur, ce petit vélo qui tourne dans la tête, le petit singe dont parlent les bouddhistes et que les Toltecs appellent le parasite, hein, qui finit par être comme une entité qui se nourrit de notre propre énergie et qui a pris le contrôle de notre esprit. Et ça peut aller très loin, ma supposition. Ça peut conduire à la maladie, à la folie, à la mort.
Bien sûr.
Ouais, vous rencontrez quelqu'un dans la rue quand vous avez envie de changer de trottoir, hein, vous disant « Ouh là là, celui-là, il est chargé d'idées noires » ou quelqu'un vers lequel vous n'avez pas envie d'aller. C'est souvent des gens qui font beaucoup de suppositions. C'est-à-dire qu'ils sont bourrés de formes pensées négatives et qui croient à l'enfer qui est dans leur tête.
Bien
et qui finissent par donner leur accord à cela. Et donc, vous voyez, ça va très loin. Parce que les gens peuvent se rendre malades, peuvent perdre la raison, parce que le parasite a pris une telle place, peuvent devenir monstrueux. Ça peut conduire même jusqu'à la mort, parce que ce parasite prend tellement d'importance qu'il peut finir par nous dévorer complètement.
Bien sûr.
Effectivement, oui, on pourrait dire en langage plus religieux qu'ils sont possédés. Ils sont possédés par le parasite qui a pris toute la place et la quasi-totalité du contrôle de leur esprit. Donc, ils n'ont plus assez d'énergie, de conscience libre pour faire face aux situations. Et alors, encore moins, évidemment, pour être libre et profiter de la vie. Comment vous voulez
profiter ? Et malheureusement, en plus, ils attirent à eux des situations similaires qui ont ce même genre d'énergie. Et ça ne fait que valider ce qu'ils pensent. Donc
et bien souvent, ils projettent aussi cet enfer-là à l'extérieur. À l'extérieur, on a de multiples exemples dans l'histoire et où comment cet enfer et ce mensonge du parasite peut être pris pour une réalité aussi. Hein. Vous savez, un mensonge répété 1000 fois devient une vérité.
distribuen tomamos son café besamos en francés no yo no sé canta sin tu amor me moriré no sé grita ya no aguanto ese reír quiero sufrir linda canción.
C'était Mi Vanidad de la grande chanteuse américano-mexicaine Lasa de Cela. Nous nous penchons sur les quatre accords Toltec aujourd'hui dans Les Enfants du Nouveau Monde. Alors place à la sagesse de l'ancien Mexique avec Pierre-Alexandre Morales. Alors passons au quatrième accord Toltec parce qu'en plus il y en a encore un cinquième et puis on a plein d'autres choses aussi à voir. Alors le quatrième c'est...
Le quatrième c'est, j'en ai parlé au début, faites toujours de votre mieux.
Ce qui permet de relativiser et d'être tranquille avec ces trois premiers accords, c'est-à-dire de faire de notre mieux et de ne pas s'en vouloir s'il y a des moments où on n'est pas parfait. Quoi.
Oui, le quatrième accord, il est intéressant parce qu'enfin, on peut passer à l'action, on peut concrétiser les choses. Et puis, c'est un accord d'écologie personnelle. C'est donner le meilleur de vous-même là où vous en êtes pour pratiquer ces accords. Ne vous mettez pas la pression. On n'entre pas en toltéquité comme on entre en religion. Les accords toltec, c'est pas une religion, comme je dis souvent, parce que il y a parfois des gens qui se créent un nouveau conditionnement.
Se créent un nouveau dogme.
Se créent un nouveau dogme, en quelque sorte, peut-être pas jusque-là, mais un nouveau conditionnement avec ces accords. Alors que ces accords, ils sont là pour justement nous libérer d'un conditionnement subi. Qui nous viennent de l'éducation, de l'enfance, de la culture, de la religion, du rêve de la planète et de l'endroit où on s'incarne sur Terre et où on vient à naître et à vivre.
Faire toujours de son mieux par rapport à ça.
Oui, c'est-à-dire donner toujours le meilleur de soi-même, sachant que ça change tout le temps, ça change d'instant à l'instant, exactement comme la nature, comme les saisons. Et nous sommes la nature, hein, on n'est pas séparés. Et la voie Toltec, c'est cet art de vivre, justement, qui permet de vivre en accord avec la nature, en accord avec les cycles. Et donc, donner toujours le meilleur de soi-même, là où j'en suis, voilà, pour pratiquer ces accords et pour se créer un nouveau conditionnement, effectivement, mais choisi celui-là, un nouveau conditionnement conscient. Et j'ai envie de dire aussi que lorsque
c'est-à-dire
ces accords...
prendre de nouvelles habitudes, des habitudes qui sont écologiques pour
conclure
moi-même.
Conclure de nouveaux accords. Voilà, on pourrait le dire comme ça, mais ça revient au même. Pour justement créer un nouveau rêve, poser une nouvelle intention.
Créer une nouvelle réalité.
Créer une nouvelle réalité.
Et alors, il y a un livre entier qui est consacré au cinquième accord Toltec qui a été écrit donc par Don Miguel Ruiz, hein, l'enseignant de la voie Toltec, aujourd'hui le plus connu dans le monde. C'est la maîtrise de l'amour, c'est ça, le cinquième accord?
Alors oui et non. C'est-à-dire que La maîtrise de l'amour est le titre d'un livre que Miguel a écrit dans les années 90 et qui est un des livres majeurs aussi de son enseignement. Et on pourrait dire que le cinquième y était contenu en partie. Il a voulu le donner à la suite des quatre premiers, mais il s'est rendu compte que l'enseignement du cinquième ne passait pas auprès de ses apprentis. Et donc il a attendu, il a préféré les laisser... intégrer l'enseignement des quatre premiers. Et c'est grâce à son fils, José, le fils auquel il transmet le flambeau de la lignée familiale Toltec, que le cinquième a été écrit conjointement avec lui, parce que José a réussi là où Miguel a échoué quelques 8 ans auparavant. Et donc, 8 ans après les quatre premiers, le cinquième accord Toltec, la voie de la maîtrise de soi, a été publié en 2010.
Ah, donc, alors, en quoi consiste ce cinquième accord Toltec?
Il consiste par la pratique du doute éclairé, en fait, du scepticisme. Il nous dit deux choses. C'est le seul accord qui est en deux parties. Soyez sceptique, d'une part, mais apprenez à écouter. Alors, les quatre accords correspondent à la seconde maîtrise dans l'enseignement Toltec traditionnel, qui est la maîtrise de la transformation. On conclut ces quatre accords dont on vient de parler pour transformer sa réalité, pour se transformer. On parle aussi du rêve des guerriers, en fait. C'est-à-dire que on va être un coup au paradis, un coup en enfer, un coup notre parole impeccable sera impeccable, un coup ces accords on va les maîtriser, un coup non, mais on a suffisamment d'énergie et de pouvoir personnel pour se relever et conclure un nouvel accord et avancer avec ces accords. Lorsque on aborde le cinquième accord, il correspond avec cette troisième maîtrise traditionnelle qui est la maîtrise de l'intention ou de l'amour. ou de la foi encore, c'est-à-dire qu'on va poser une nouvelle intention. Avec les quatre accords, on transforme, mais une fois qu'on s'est transformé, très bien, on a la structure du 4, hein. Le 4 en numérologie, c'est
la stabilité.
Le carré, la stabilité, la fondation, la maison, on dit de quelqu'un, il est carré, très bien.
On a créé de nouvelles fondations, les quatre
points cardinaux, les quatre directions, etc. Très bien, mais on peut aussi ne plus bouger. Se figer et rester bloqué en fait dans cette phase d'évolution. Avec le cinquième, c'est une invitation à aller plus loin, c'est le plus abouti des enseignements de la boîte Toltec. Et Miguel et José nous disent en quelque sorte, bon, vous avez conclu ces quatre accords, très bien, mais maintenant, qu'est-ce que vous allez faire? Qu'est-ce que vous allez construire? Eh bien, la première invitation, c'est arrêter de tout prendre pour argent comptant. Arrêtez de croire tout et n'importe quoi, y compris ce que je vous dis. Ne me croyez pas, dit Miguel Ruiz, ne croyez pas les autres et surtout ne vous croyez pas vous-même. Vous sonnez la voix qui parle dans la tête.
Ne croyez pas le parasite.
Le parasite, exactement. Et c'est un accord idéal et très puissant pour en finir avec la crédulité, avec une forme de naïveté, d'angélisme. Aujourd'hui, beaucoup de gens, avec tout ce qu'on entend, bien qu'ils soient éduqués, instruits, cultivés, croient n'importe quoi, tout et n'importe quoi. Vérité ou fiction? Donc, passer tout au filtre d'un scepticisme éclairé, on peut faire aussi un pont avec les philosophes grecs, les sceptiques dans l'Antiquité, qui ne croyaient rien, qui vérifiaient tout, qui mettaient tout en examen. Mais pour autant, apprenez à écouter, c'est-à-dire apprenez à écouter au-delà du simple message des mots, qui ne sont pas simple message verbal, qui ne sont pas la vérité ou la réalité, mais qui sont qu'une représentation symbolique de la vérité. Je peux passer un quart d'heure à vous expliquer le goût de la banane, rien ne va remplacer l'expérience que vous allez faire, qui se passe de mots. Lorsque vous voyez un nouveau-né, un enfant qui vient au monde, l'émerveillement, on n'a pas besoin de mots, il ne parle pas, il n'utilise pas de mots, il est lui-même le message. Donc vous voyez, c'est aller au-delà des mots, pour comprendre le sens du message véritable en saisissant l'intention.
Là, c'est vraiment un appel à la fois à l'esprit critique, au discernement.
Oui.
Moi, c'est une valeur qui m'est très chère dans le monde de l'information et des médias, puisque aujourd'hui, on trouve vraiment tout et n'importe quoi au niveau de l'information. On sait que les grands médias sont les propriétés des puissants et que du coup, ils cherchent à conditionner les esprits dans un but précis, c'est-à-dire dans le divertissement, c'est-à-dire faire diversion des choses intéressantes et importantes. Et du coup, quand on fait confiance à notre intuition, à notre esprit critique, on va pouvoir déceler à travers notre ressenti ce qui est juste et ce qui ne l'est pas. Et après, bien sûr, on peut aller vérifier les sources, etc., mais on n'est pas tous des investigateurs et on n'a pas tous le temps d'aller tout vérifier. Mais quand on nous dit quelque chose, quand on a une source médiatique d'information, etc., si on sent vraiment à l'intérieur de soi et qu'on fait travailler son discernement et cet esprit critique, on peut percevoir si l'intention est juste ou pas, si là, il y a quelque chose de qualité, un message de qualité ou pas. Donc, c'est vraiment cette vertu-là qui est mise en avant dans ce cinquième accord.
C'est exactement ça. Ça va permettre effectivement de faire le tri sélectif, trier le bon grain de livret, et de faire appel, effectivement, tu as parlé de ressenti, donc là c'est plutôt le corps, c'est-à-dire quand je le sens, je le sens pas, très souvent, je le sens pas, mais j'y vais pas. L'intuition qui est plutôt la psyché, d'ailleurs dans cet accord il est question finalement de l'âme, quel va être le nouveau projet, notre nouveau rêve de paradis personnel, dit Miguel Ruiz. Et puis, je dirais aussi d'écouter ce que nous dicte notre cœur. Donc, de faire preuve d'une écoute fine, d'une écoute subtile, au-delà des apparences, en saisissant bien l'intention. Alors, c'est un accord qui est complexe, qui demande tout un enseignement à lui tout seul. Mais pour le résumer simplement, on pourrait dire en fait que c'est fort des quatre accords que j'ai conclus pour me transformer. Je prends un nouveau départ, c'est-à-dire... Quel est maintenant mon nouveau projet, mon nouveau rêve, ma nouvelle réalité et avec qui j'ai envie de le partager? C'est pour ça qu'à la fin du cinquième accord, Miguel lance cet appel auquel j'ai répondu à l'époque, en faisant ce que je fais aujourd'hui, en partageant ces accords qui ont changé ma vie et en aidant donc les autres à faire de même. Quand il lance cet appel, aidez-moi à changer le monde. Aidez-moi à changer votre monde. Aidez-moi à changer votre logiciel de pensée, votre réalité intérieure, pour créer votre rêve de paradis personnel qui est là, à portée de main, quand on voit la beauté de cette planète, quand on voit tout ce qui est à disposition, quand on voit cette abondance qui est toujours là.
C'est clairement en se changeant nous-mêmes que l'on va pouvoir changer le monde. C'est voilà. Et en faisant advenir la plus belle de nos réalités personnelles que l'on va pouvoir faire advenir la plus belle de nos réalités
collectives. Exactement. Un rêve de respect. Un rêve de respect. L'enseignement du cinquième accord, c'est aussi de dire « je te respecte même si je ne partage pas ton point de vue et même si je peux te combattre en tant qu'adversaire et pas ennemi forcément, eh bien je te respecte. » Comme disait Voltaire dans le traité de la tolérance, « je ne suis pas d'accord avec vous, mais je me battrai pour que vous puissiez exprimer votre opinion. » Et j'aime bien citer aussi une parole de l'islam, certains feraient bien de s'en rappeler aujourd'hui, où il y a une pépite dans l'islam qui dit que toute opinion est sacrée. Et là, on est là-dedans aussi. Chacun a le droit de penser ce qu'il veut. Chacun est un artiste de l'esprit, élabore un rêve. Bon, certains créent un rêve qui est un véritable cauchemar, un rêve de mort, mais d'autres créent un rêve de beauté et de paradis. Et je choisis mon camp. Je choisis là où j'ai envie d'aller et avec qui je veux partager mon rêve. Et ce rêve est toujours possible à chaque instant avec la possibilité de conclure un nouvel accord et de faire un nouveau choix.
C'était Scratch Bandy Crew avec Heartbeat. Et merci d'écouter les enfants du Nouveau Monde, où nous découvrons aujourd'hui la sagesse Toltec, transmise par le Mexicain Don Miguel Ruiz, avec les 4 et maintenant 5 accords Toltec. Alors toi, Pierre-Alexandre Morales, tu es allé à la rencontre de Don Miguel Ruiz, justement, et ça a été un grand moment pour toi. Est-ce que tu peux nous en dire deux mots ?
Oui, je suis allé à sa rencontre, mais il a fait aussi une partie du chemin parce qu'il est venu en France il y a quelques années. Et donc, au cours d'une formation que j'ai suivie avec lui et José...
Son fils,
qui prend
le relais,
la succession aujourd'hui. Eh bien, j'ai vraiment reçu une transmission vibratoire. Je dirais que c'est comme s'il avait déposé cette flamme toltèque d'amour, en quelque sorte,
en toi.
Dans mon cœur. Il y a vraiment eu, c'est passé par beaucoup de rituels avec l'esprit de la nature et des rituels de pardon, notamment. Donc j'ai vécu plusieurs rituels, dont un rituel de pardon avec lui. Et il y a vraiment eu cette transmission. Je m'inscris dans ses pas, dans cette lignée, fidèle à cet enseignement, fidèle à l'esprit de cet enseignement, en donnant le meilleur de moi-même, donc faisant de mon mieux. Et il y a eu cette invitation à continuer à aller plus loin et toujours parfaire mon enseignement aussi, en même temps, dans cette voie toltèque, voilà, qui a changé ma vie, qui change ma vie, et donc aider les autres à changer la leur.
Mmh, bien sûr. Alors aujourd'hui, donc tu transmets cet enseignement de la voie toltèque. On va voir après à travers des stages et à travers des accompagnements individuels également. Et il y a donc un outil qui est très puissant, qui est le cercle de pardon. Est-ce que tu peux nous expliquer en quoi ça consiste ?
Alors le cercle de pardon, c'est un rituel d'inspiration toltèque qui dure 2 à 3 heures de temps. Sur la base du rituel de pardon qu'a vécu Olivier Clerc, qui est le traducteur en français des écrits des Ruiz, père et fils, et qu'il a vécu avec Don Miguel au Mexique. Et il en a fait un livre 10 ans après, Le don du pardon, un cadeau toltèque de Miguel Ruiz, pour relater cette expérience qui l'a beaucoup marqué. Et il a démarré ses premiers ateliers sur le pardon dans les années 2013, me semble-t-il, que j'ai fait avec lui. Je l'ai rencontré à ce moment-là, à l'époque où je me tournais vers des mentors dans la voie toltèque, cherchant justement à aller plus loin dans mon enseignement, à me professionnaliser et aller au contact de mes pairs, parce qu'il me manquait cette légitimité externe alors. Et je me suis formé ensuite au rituel du cercle du pardon avec lui en 2013. Et j'ai démarré, c'est ça, mes premiers cercles de pardon en 2014.
Alors,
et
en donc, quoi ça consiste, ces cercles de pardon? Comment ça se passe? Alors, ça paraît hyper important, le pardon, aujourd'hui, où on est beaucoup, on parle de jugement, on est beaucoup en proie à des jugements négatifs, aussi bien vis-à-vis de nous-mêmes que vis-à-vis des autres, et qui nous polluent intérieurement, toutes ces sensations négatives. Et le pardon, c'est à un moment donné faire place à l'amour. Comment ça se passe? Parce qu'on pourrait croire que ça se décide pas, que le pardon, c'est une grâce qui vient à un moment quand les émotions de colère et de haine se sont enfuies par miracle. Mais comment décider que d'un coup on pardonne? Comment ça se passe?
Je crois qu'effectivement, ça ne se décide pas. Ça ne se décrète pas. C'est pas quelque chose qui se passe avec la tête ou le mental. On peut avoir une intention de pardonner. Je crois que on pardonne lorsqu'on en a assez de souffrir. Je crois que lorsque...
C'est un lâcher prise, le pardon.
C'est ça. Donc c'est vraiment une affaire du cœur, le pardon. Le pardon est vraiment quelque chose qui concerne le cœur. Même si la tête peut avoir aussi son mot à dire, j'en toucherai peut-être un mot, j'ai envie de répondre que le pardon, à mon avis, est une des meilleures médecines pour guérir le cœur. C'est guérir les blessures du passé. Voilà. À quoi ça sert? Ça sert à guérir les vieilles blessures du passé qui sont encore là et qui nous empêchent en fait de vivre heureux, de vivre le cœur libre, un cœur en paix, de vivre un cœur aimant, et que ce cœur puisse rayonner. La nature d'un cœur, a priori, que je sache, c'est de rayonner, de s'ouvrir. Et pour ouvrir le cœur, ben, s'il n'est pas guéri, c'est guère possible. Donc, on a vécu telle ou telle situation, on a été blessé. Une fois, est-ce que pour autant on va revivre des dizaines et des centaines de fois la même chose parce qu'il y a de la rancœur, du ressentiment, de la rancune, de la haine? Le pardon, c'est quand vraiment on en a assez de souffrir, quand ça dysfonctionne à un point, qu'on se dit ok, c'est la clé, c'est la voie de passage. Mais c'est la même chose avec les accords que l'on conclut quand on en a marre de souffrir et qu'il y a un dysfonctionnement tel qu'on se dit là, il me faut des outils, il me faut des clés pour pouvoir transformer ma réalité. Alors, donc le pardon répond bien à la guérison des blessures du cœur. C'est une des meilleures médecines que je connaisse pour cela, et les cercles de pardon sont un outil très puissant et doux à la fois pour y remédier. Bon, c'est pas la seule chose que je connaisse. Mais en tout cas, c'est un bon moyen, sachant qu'il n'y a rien ni de religieux, ni de moral. On n'est pas dans une approche religieuse, on est dans une approche transpersonnelle et universelle, avec une dimension thérapeutique de guérison du cœur, et que ça s'adresse à tous, quelle que soit sa confession. On peut être athée, bouddhiste, juif, chrétien, musulman ou toltèque. C'est ouvert à tous.
Et comment ça se passe alors?
En cercle.
Oui.
Comme dirait l'autre, je reprends une phrase d'Olivier Clerc qu'il a lui-même repris de quelqu'un. C'est pas mal de se retrouver de temps en temps en cercle avec tout le temps qu'on passe en ligne, n'est-ce pas? Donc c'est en cercle, 2 à 3 heures de temps. Je vais pas révéler le contenu. Le mieux, c'est d'essayer, c'est à vivre. Et c'est une approche transpersonnelle qui consiste en fait à demander pardon. Et qui a été transmise par Miguel Ruiz, sachant que le pardon, c'est pas quelque chose de spécifiquement toltec, mais Miguel ayant cette double culture mexicaine toltec, mais aussi christique, j'ai envie de dire, a compris que le pardon était un bon moyen d'apporter ce baume, ce baume au cœur face à toutes ces souffrances, parce que l'humanité a encore beaucoup à guérir. Il y a tellement de souffrances, il y a tellement de cruauté, il y a tellement de violence encore. En même temps, parce que j'ai envie de dire, lorsqu'on accepte, il n'y a plus besoin de pardonner. Mais nous n'en sommes pas là. Donc, c'est le bon moyen, en fait, pour accepter et s'accepter soi-même. Donc, s'accepter et apprendre à s'aimer tel que nous sommes. Ça, c'est vraiment tout le travail de Miguel. Vraiment de réparer, de nous inviter, de nous apprendre à nous aimer tel que nous sommes. Dans notre culture judéo-chrétienne, on a longtemps vécu avec ce conditionnement qu'on est né pécheur, qu'on est toujours un peu souffrant, coupable, pécheur. Non, en fait, c'est une distorsion de l'esprit. C'est une croyance, c'est un conditionnement, c'est un processus de domestication, comme dirait Miguel Ruiz.
Qui a permis d'asservir toute la population. Voilà, aujourd'hui, il serait temps de laisser tomber.
Mais qui avait aussi sa raison d'être, et aujourd'hui, nous n'avons plus besoin de ça. Et même l'Église s'est réformée là-dessus, même se transforme et se remet en question. Et Miguel vient vraiment apporter ce travail de réparation, de restauration. Voilà, j'ai envie de dire.
Alors, il est clair qu'aujourd'hui, la planète et toute l'humanité a besoin de guérir. Justement, donc, tu parlais des vertus guérisseuses du pardon. Toi, tu as aussi un côté de toi qui est guérisseur, tu es magnétiseur, et tu inclus cela dans tes accompagnements aussi?
C'est une partie de mon activité en cabinet de soins. J'ai cette aptitude à soigner, soulager avec les mains. Donc c'est surtout des pathologies physiques dont je m'occupe. En magnétisme, on travaille beaucoup avec l'énergie de la terre, hein. Je m'inscris dans cette tradition un peu des guérisseurs de nos campagnes. Et donc je m'occupe du corps physique, de soulager, de guérir le corps physique. C'est quelque chose que j'ai découvert il y a une dizaine d'années. J'ai fait plusieurs écoles de formation. Et donc, je reçois un cabinet à la campagne pour ce qui est la partie du magnétisme, qui pour moi est distincte de mon travail d'enseignement de la loi Toltec, mais qui en même temps est organiquement relié. Parce que c'est vrai que, j'en ai pas parlé au début, si j'ai la trajectoire de l'enseignant, j'ai aussi celle d'un guérisseur, d'un thérapeute.
Et aujourd'hui, on a besoin de guérir aussi bien le corps que l'esprit et le cœur, donc ça tombe très bien. Alors, on va parler des prochains rendez-vous que tu proposes. Donc, pour découvrir justement les cercles de pardon, il y en a pas mal dans les prochaines semaines. Il y en aura un le samedi 26 mai, c'est tout bientôt à Carpentras, et tu fêteras tes 4 ans de cercle de pardon à cette occasion.
Oui, c'est un cercle qui se déroule en après-midi. C'est pas fréquent. La plupart, c'est en soirée. C'est de 14h30 à 17h30 à l'espace Fenouille. Et ce sera l'occasion, effectivement, de fêter les 4 ans d'animation, partout en France, en Suisse et au Maroc.
Il y en aura un également le 1er juin à Brissac dans l'Hérault, à l'occasion des rencontres du masculin sacré. Et puis un autre à l'issue de ce festival du masculin sacré et à l'issue du festival parallèle du féminin sacré. Les deux se rencontreront pour un cercle de pardon mixte le 3 juin au camping d'Isis à Saint-Julien-de-la-Nef. Et puis enfin une autre date le 13 juin près d'Avignon. Donc là c'est ton lieu de prédilection au Mas des Vertes Rives. Donc ça se passe à Châteauneuf de Gadagne à côté d'Avignon. Pour en savoir plus, vous aurez toutes les informations donc sur le site internet de Pierre-Alexandre Morales qui est Vivre les accords Toltec. Il y a également 2 stages qui sont prévus. L'un aura lieu donc toujours près d'Avignon les 20, 21 et 22 juillet. Et enfin, un stage un petit peu particulier le 1er, 2 et 3 août. Ça s'appelle 1, 2, 3 soleil et ce sera co-animé avec une sophrologue. Donc ça sera sur la voie Toltec et la sophrologie, avec une grande place pour tout ce qui est corporel et le mouvement, etc.
Dans la Dombe provençale, dans les baronnies, dans les montagnes au-dessus de Nyons, à Arpavon exactement, au ranch du Rocher Rouge.
Merci beaucoup Pierre-Alexandre pour cet entretien et pour cette émission. Au plaisir.
C'était un plaisir de répondre à ces questions et j'ajoute aussi que j'accompagne en coaching individuellement avec les outils de la Voix Toltec également et que pour le stage du mois de juillet 20, 21, 22, ce sera en résidentiel 3 jours, travail intensif sur la Voix Toltec avec beaucoup d'éléments corporels, du mouvement et également des apports chamaniques.
Merci beaucoup, bonne continuation, à très bientôt.
À bientôt, merci.
My gang will get you. Retrouvez les enfants du Nouveau Monde tous les lundis, une semaine sur deux, le matin ou le soir, soit 8h30, 9h30, soit 18h30, 19h30 sur Radio 16. Toutes les émissions sont également écoutables quand vous voulez sur radio16.net.